l'été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Dans un instant, vos réactions sur la condamnation de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. 18 ans de prison, voilà le verdict prononcé hier par la Cour pénale internationale. Mais d'abord, comme promis, Laura Martel du service Afrique des RFI est restée dans ce studio. Osvaldo, vous êtes toujours en ligne de Bruxelles ?
Oui, je suis en ligne, Juan.
Voilà. Et juste avant le journal, vous nous posiez une question concernant le Cabinda, donc cette enclave coincée entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, une enclave angolaise où, depuis maintenant une cinquantaine d'années, un mouvement exige, revendique en tout cas l'indépendance de ce territoire. Et vous nous appeliez, après la mort de l'homme qui incarnait ce mouvement historique, ce mouvement charismatique. Quelle était votre question, Osvaldo ?
Je disais pourquoi le Cabinda, qui remplit toutes les conditions requises pour son droit à l'autodétermination, est toujours absent sur l'agenda politique des Nations Unies.
Alors effectivement, on ne parle jamais à l'ONU d'une éventuelle indépendance du Cabinda. Vous nous rappeliez, Laura Martel, quelques faits historiques pour comprendre effectivement l'enjeu et l'importance de ce dossier pour les Cabindais.
Oui, parce que ce que soulignent en fait les mouvements indépendantistes, c'est que au départ, le Cabinda et l'Angola sont deux entités distinctes, ce ne sont pas la même colonie, même si les deux donc sont colonisés par les Portugais. Et donc il y a ce fameux traité en 1880 qui place le Cabinda sous protectorat du Portugal, et donc, mais là de manière distincte de l'Angola. Et donc les indépendantistes appuient là-dessus. Dans la constitution de 1933 du Portugal aussi, les deux pays sont mentionnés de manière distincte. Et aussi en 64, l'OUA, quand elle se penche sur les pays qui restent à décoloniser, fait des cas séparés aussi pour l'Angola et le Cabinda. Donc c'est ce que soulignent les indépendantistes, et ils disent quand le protectorat portugais s'est terminé, le Cabinda aurait dû aussi avoir droit à l'indépendance reconnue par la communauté internationale.
Est-ce qu'on peut dire, Laura Martel, que ces 50 dernières années, la communauté internationale est restée sourde aux velléités indépendantistes de ce mouvement ?
Alors, en fait, pas toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que dès 1960, l'ONU semble entériner, de fait, l'annexion du Cabinda par l'Angola, puisque dans la résolution qui est relative à la décolonisation, ils disent « l'Angola, y compris l'enclave du Cabinda ». Et en 75, donc quand les colonies portugaises vont accéder à l'indépendance, eh bien les mouvements indépendantistes de l'Angola signent ensemble et avec le Portugal finalement l'annexion, le rattachement du Cabinda à l'Angola. Alors vous le disiez, Juan, c'est difficile de revenir sur 50 ans de lutte d'indépendance du Cabinda, mais pourquoi en fait l'ONU finalement ne s'occupe pas de cette enclave actuellement ? Eh bien il y a plusieurs choses. D'abord la division des indépendantistes. Il faut souligner que il y a une multitude de mouvements, de sous-mouvements, le FLEC, il y en a près du...
On a du mal à s'y retrouver.
Voilà, oui. Il y en a eu près d'une cinquantaine de différentes branches en 30 ans. Et donc, évidemment, Luanda a su jouer sur cette cacophonie en disant « Mais avec qui peut-on négocier ? Personne n'est représentatif. » Il y a ensuite, finalement, la richesse du Cabinda, sa richesse pétrolière, qui à un moment a joué pour lui, puisque l'attrait pour le pétrole a permis aux indépendantistes de se faire financer, soit par des Angolais, soit par des pays de la sous-région, soit par les puissances occidentales, notamment les Français et les Américains. Donc ils ont reçu des soutiens financiers pour se battre, pour obtenir leur indépendance, mais en même temps, ça a accentué ce fractionnement entre les mouvements et dans un contexte de guerre froide et de guerre civile en Angola. Il y a aussi donc la répression ensuite angolaise qui finalement a poussé des milliers de combattants à fuir le pays et les a coupés de la population. Et puis surtout, en fait, dans les années 90, l'essoufflement de la guerre froide, le changement de régime dans les pays voisins et notamment en RDC, les intérêts économiques pour le pétrole des Occidentaux ont mené à l'essoufflement des soutiens. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne parle plus des besoins de détermination du Cabinda, mais peut-être parce que l'Angola est un des principaux bailleurs de fonds de l'Union africaine. Et pour l'ONU, plus question vraiment aujourd'hui de remettre en cause les frontières. On voit que maintenant, quand il y a des demandes d'indépendance, l'ONU est plus favorable à des mesures d'autonomisation population et les indépendantistes, eux-mêmes trop divisés pour se faire entendre, n'arrivent pas à porter leur cause et plus aucun pays ne les soutient dans cette cause d'indépendance du Cabinda.
Merci beaucoup Laura Martel. Vous souhaitez, vous qui nous écoutez, réagir justement à la mort du leader charismatique du FLEC il y a quelques jours à Paris. On pourra en parler, si vous le souhaitez, évidemment, vendredi dans la Libre Antenne, et ce sera l'occasion d'évoquer la situation donc au Cabinda. Place maintenant à notre débat du jour. On parle ce matin de la condamnation de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. Je vous rappelle que l'ancien vice-président congolais a écopé de 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au début des années 2000, non pas dans son pays, la République démocratique du Congo, mais en Centrafrique, car à l'époque, les miliciens de Jean-Pierre Bemba étaient partis sur place à Bangui pour prêter main forte au président centrafricain Ange-Félix Patassé, qui était menacé d'un coup d'État. Et durant plusieurs mois, les troupes de Jean-Pierre Bemba ont tué, pillé et violé. C'est d'ailleurs la première fois que la Cour pénale internationale condamne le recours au viol comme crime de guerre. Alors certes, et ce sera le débat ce matin, et à mon avis on en parlera évidemment avec vous tous, Jean-Pierre Bemba n'était pas physiquement présent en Centrafrique, il s'y est tout de même rendu à plusieurs reprises. La CPI ne l'a donc pas condamné comme auteur des crimes, mais en tant que commandant militaire, en tant que responsable finalement, que chef militaire. Et là aussi c'est une première, la CPI condamne une personne en vertu de la responsabilité du commandant. Alors que vous inspire ce verdict ? Peut-on parler d'un procès politique, comme l'affirment aujourd'hui les partisans de l'ancien président, vice-président congolais ? Ghislain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bangui, vous êtes en Centrafrique, et satisfait finalement après avoir entendu le verdict de la Cour pénale internationale ?
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Là, vraiment, c'est vrai, le verdict est tombé, mais 18 ans, je pense que quand même c'est léger pour tout ce que les Centrafricains ont enduré. Alors, c'est quand même une première, ça il faut le reconnaître, mais je me dis que Jean-Pierre Bemba n'était pas le seul à répondre devant la CPI. Il y avait des dignitaires à l'époque de feu président Patassé, qui sont encore aujourd'hui, que les Centrafricains attendaient de voir devant la CPI pour donner des explications par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, c'est-à-dire que... attendez, si je comprends bien, Ghislain, vous êtes satisfait du verdict, quoique vous trouvez que 18 ans, c'est peu, mais ce que vous regrettez, c'est qu'il n'y ait pas eu de Centrafricain poursuivi par la Cour pénale internationale, puisque les faits se sont déroulés en Centrafrique. Certes, Jean-Pierre Bemba a été condamné, mais aucun Centrafricain n'a été appelé, ou en tout cas, n'était dans le box des accusés.
Tout à fait, Ewan. Ça, c'est pas normal, parce que Jean-Pierre Bemba était chez lui. Eh ben, on lui a fait appel. On sait qui. C'est pas le président Patassé seul. Ben, c'était lui et son entourage. Et les gens qui font partie de son entourage sont encore aujourd'hui en vie. Donc, pourquoi ne leur pas demander des explications? Voilà. Bon, le verdict est tombé. C'est quand même un soulagement pour les victimes. Mais le véritable problème qui va se poser, OK, 18 ans de prison. Mais comment on va faire maintenant pour indemniser les victimes?
Effectivement, voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question que vous posez et que vous soulevez sur l'indemnisation des victimes. On aura peut-être l'occasion d'entendre dans la journée ou peut-être demain les avocats qui s'exprimeront sur ce sujet. Merci de nous avoir appelé, Ghislain. Willy, vous êtes à Kinshasa?
Oui, je suis à Kinshasa. Bonjour, Juan.
On vous écoute. Soyez le bienvenu.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Je suis extrêmement mécontent de la décision de la CPI, parce qu'on ne peut pas nous apprendre la justice et pratiquer le contraire. Jean-Pierre Bemba n'est que victime de humeurs de ceux qui ont organisé la CPI et qui pensent qu'ils peuvent faire ça à tous les Africains. Il n'y a pas de l'équité dans leurs décisions. Toute décision judiciaire doit avoir une équité. Comment on peut condamner Jean-Pierre Bemba, qui était en Centrafrique, et on dit qu'il commandait des troupes à partir de la RDC, et ceux qui exécutaient les ordres illégaux de Bemba sont libres. ceux qui l'ont invité sont libres.
Alors, ceux qui l'ont invité, c'est en l'occurrence le président Patassé, qui est décédé, lui, en 2011. Donc, il est mort, donc il ne peut pas être poursuivi par la Cour pénale internationale. Mais comme le premier auditeur, on vous dit qu'il aurait fallu que des centrafricains soient également dans le box des accusés. Jean-Pierre Bemba était certes à des milliers de kilomètres de la Centrafrique. En même temps, il avait régulièrement au téléphone ses hommes. Il était régulièrement informé de ce qui se passait sur le terrain.
Ça, ce sont des allégations, Monsieur Rouen. Patassé est mort en 2011 et Bemba a été arrêté depuis quel temps après 2011 pour qu'on dise que la question publique
le Willy, je suis désolé et je pense que c'est mal parti depuis le début du débat. Les lignes téléphones sont mauvaises et je crains que ça soit le cas encore durant les 10 prochaines minutes. Vous n'y pouvez rien, Willy. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Qui avons-nous au standard? Alors, essayons Ulysse, qui est centrafricain, qui nous appelle de Bruxelles. J'ose espérer que les lignes avec la Belgique sont meilleures. Bonjour, Ulysse.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, on vous écoute sur le verdict prononcé hier par la CPI.
Oui, je salue les auditeurs de RFI et je veux vraiment dire que c'est une bonne décision. Tout simplement parce que nous sommes en Afrique dans un climat où les leaders politiques pensent qu'ils peuvent défendre leurs idées politiques au détriment des vies humaines. Et là, je pense que le message qui est envoyé, c'est de dire, bon, vous avez des idées, vous avez des projets, mais on ne le fait pas au détriment des vies humaines et encore plus au détriment des femmes qui sont violées ou elles n'ont plus ce qu'on peut dire, une vie intérieure, une âme après ce genre d'événement. Donc, je crois que la sentence pourrait être un peu plus large, comme les auditeurs précédents l'ont signalé. Et je crois qu'elle doit être maintenue. Les avocats, je comprends pas, ils veulent faire appel pourquoi? Ils veulent faire appel. Et si les personnes qui ont perdu leurs proches, ils vont faire appel, ils vont retrouver leurs proches. Ils vont pas retrouver leurs proches. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses en prison, écrire un livre, par exemple, et soutenir ses idées politiques. Quand on prend des décisions, il faut les assumer. Il n'était pas sur place, c'est vrai. Mais il est responsable de ses troupes. Il est responsable de ses troupes.
Il est responsable de ses troupes. En plus, il s'est rendu à plusieurs reprises en Centrafrique alors que ses hommes étaient sur place. Il a notamment apporté des armes à ses miliciens. Il a même rencontré le président Félix Patassé. Donc, il ne pouvait ne pas savoir ce que faisaient concrètement ses hommes sur le terrain. Lui dit, à partir du moment où mes hommes étaient en Centrafrique, je n'avais aucun contrôle sur eux. Ils étaient aux ordres de l'armée centrafricaine, donc aux ordres du président Ange Félix Patassé. Merci Félix de nous avoir appelé de Bruxelles. On reste, tiens, dans la capitale belge avec Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute. Est-ce que vous partagez le soulagement ou en tout cas la satisfaction du précédent auditeur?
Merci Juan. Moi, je suis à la fois satisfait et déçu. D'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, je salue le verdict parce que cela démontre à suffisance qu'on ne peut pas s'évertuer à accéder au pouvoir par tous les moyens en violation flagrante des droits de l'homme. Et donc, ce qui arrive à Jean-Pierre Bemba, eh ben, il le récolte bien.
Jean-Pierre Bemba, excusez-moi de vous contredire, Emmanuel, ne cherchait pas à prendre le pouvoir en Centrafrique. Il cherchait simplement à sauver un régime qui pouvait basculer à tout moment, qui était menacé d'un coup d'État par la rébellion de François Bozizé. Donc, il est juste venu aider son ami Patassé. Voilà. Donc, il ne cherchait pas, lui, à prendre le pouvoir.
Oui, permettez-moi, Juan, Jean-Pierre Bemba se servait de la République centrafricaine comme as barrière de son armée chez nous, donc en République démocratique du Congo. Et donc là, c'est un fait. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il soit le seul à être condamné, comme l'a dit le premier auditeur en Centrafrique. Il y a le temps de Ange Félix Patassé, bien qu'il soit décédé, mais ces hommes sont là. Ils devaient répondre de leurs actes parce que c'est eux qui ont collaboré avec l'armée de Jean-Pierre Bemba. Les acolytes de Jean-Pierre Bemba, qui étaient en Centrafrique, devaient également répondre de leurs actes. Mais je voudrais aller plus loin. Et ce que je condamne de la part de la CPI, c'est cette justice un peu sélective que nous sommes en train de vivre. Ce que les Centrafricains ont vécu, les Congolais continuent à le vivre à l'Est avec l'armée rwandaise, avec l'armée ougandaise. Donc, tout ce qui se passe à Béni, personne n'en parle. Paul Kagame,
oui. Laurent... Donc vous dites que là, vous êtes en train de nous dire, sans vouloir, excusez-moi, ouvrir le dossier de l'Est de la République démocratique du Congo, vous regrettez que pour l'instant, la CPI n'ait pas ouvert d'enquête concernant la situation dans l'Est de la RDC. Je rappelle quand même, c'est important d'avoir ce repère, c'est que si la CPI s'est penchée sur le cas de Jean-Pierre Bemba, c'est à la demande de François Bozizé. C'est le président centrafricain, le tombeur donc d'Angelix Patassé, qui a saisi la Cour pénale internationale pour enquêter. La Cour a enquêté, l'a ensuite délivré un mandat d'arrêt international, et Jean-Pierre Bemba a donc été arrêté lorsqu'il était en déplacement en Europe. Il a été arrêté à Bruxelles. Voilà pour ce rappel qui me semblait intéressant. Merci à vous. Bonne journée, Emmanuel. Stéphane, vous êtes à Paris. Bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Alors, je voulais justement intervenir sur le débat. Et oui. Je vous remercie parce que votre chute de tout à l'heure me permet justement de rebondir. Parce que je pense que cette condamnation, elle est non seulement inique, et c'est une fumisterie. Pourquoi c'est une fumisterie? Parce que je pense, premièrement, que les enquêtes ont eu lieu pendant que Bozizé, qui était le rebelle contre lequel Patassé devrait combattre, qui a permis le déroulement de cette enquête. Ces enquêtes étaient déjà biaisées de ce point de vue. Deuxièmement, Bemba n'a pas été sur place en Centrafrique. On le condamne. Peut-être qu'on peut l'accepter sur la condamnation. Mais enfin, que dire? Le conflit a lieu. Il y a trois parties au conflit. Il y a Bemba qui arrive avec ses supplétifs.
Oui.
Il y a Bozizé qui est rebelle et qui tente de prendre le pouvoir par la force. Il y a Patassé qui combat déjà sur place pour sauver son régime. Mais comment peut-on condamner un seul individu alors que les autres protagonistes, qui, hein, les auteurs sont encore là aujourd'hui, même si Patassé est mort, mais certains sont là, oui. Bozizé se pavane tranquillement entre l'Ouganda et le Kenya, n'a jamais rendu compte de ses exactions.
Oui. Il est là. C'est un peu ce que disait ce matin au micro de Christophe Boisbouvier, la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, qui disait, mais quel a été le rôle des autres troupes? Pourquoi on ne les a pas entendus? Pourquoi la CPI ne les a pas fait venir pour s'expliquer?
Voilà. Donc pour moi, cette enquête est déjà partie sur un mauvais pied, c'est une hémiplégie de la justice, c'est une justice hémiplégique, c'est une justice partisane, une justice qui ne se base sur rien du tout. Vous entendez les déclarations de Mme Bensouda qui dit « cela servira l'exemple ». Mais la justice ne sert pas l'exemple n'importe comment, la justice n'est pas juste sur des faits, elle n'est pas là pour donner des leçons. Donc ça veut dire qu'il y a déjà... sur le plan principal, même on part sur un faux pas.
Oui. Mais quand vous dites que, enfin, oui, ça servira d'exemple, c'est ce que dit effectivement la procureure Fatou Bensouda, c'est ce que disent certaines ONG comme Human Rights Watch, qui disent que voilà, les supérieurs militaires, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, ont la responsabilité d'éviter et de faire cesser des attaques qui sont commises par des soldats, par des miliciens sur des civils. Donc à partir du moment où vous êtes le chef, eh bien vous avez votre part de responsabilité. C'est ce qu'il faut retenir finalement du verdict prononcé hier. Il y a beaucoup de réactions standards, également sur les réseaux sociaux. Par exemple, Christian nous dit sur Facebook, certes, il y a eu des crimes en Centrafrique et Jean-Pierre Bemba a sa part de responsabilité dans ces atrocités, mais à l'époque, les troupes du MLC étaient intervenues à la demande des autorités centrafricaines. Donc, les vrais commanditaires sont libres. Prince, ce procès est une énorme mascarade. Pourquoi Ange-Félix Patassé n'a-t-il jamais été inquiété par la CPI? Saint-Pierre parle d'un procès de la honte. Les deux acteurs centrafricains, Bozizé et Patassé, n'ont jamais été poursuivis par la CPI. Vous êtes nombreux également à pointer du doigt la Cour pénale internationale. Une fois de plus, vous êtes nombreux à soulever le fait qu'elle ne poursuit que les Africains. Je cherche mes mots parce que je découvre en même temps que vous les réactions sur Facebook. Par exemple, Vincent s'offusque que cette condamnation soit une fois de plus contre un Africain. L'Afrique doit quitter la CPI, nous dit Kaoudio, et vite. Depuis le début de ses activités, au début des années 2002, la Cour a poursuivi une trentaine de personnes pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et à chaque fois, ce sont des Africains. Comment peut-on l'expliquer, soulève cet auditeur. Kabongo, rapidement pour terminer, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Kabongo.
Oui, bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde.
On vous écoute en 30 secondes.
Bon, effectivement, c'est que les gens ignorent ce quoi. Jean-Pierre Bemba n'a pas été poursuivi en tant que chef militaire. En tant que chef militaire, s'il vous plaît. Vous savez, Bemba, d'abord, il n'était pas poursuivi en tant qu'auteur ou co-auteur. C'est un chef militaire.
Oui, il a été. C'est le contraire. Il a été poursuivi pour en tant que condamné en tant que chef militaire et non en tant que auteur ou co-auteur des crimes. C'est important effectivement de le préciser. On aura l'occasion évidemment de prolonger le débat vendredi vu le nombre de réactions que nous avons reçues. On y reviendra dans la Libre Antenne. Demain, on parlera de la Centrafrique avec la